Emmanuel Macron face aux parlementaires marocains. Lors de sa visite d'État, le président de la République a prononcé un discours et il invite le roi Mohamed VI à sceller un nouveau partenariat. En Nouvelle-Calédonie, Dimbéa se serre la ceinture. Le budget de la commune est revu à la baisse de 600 millions de francs, conséquence directe des violences débutées en mai dernier. Le cri d'alarme des sages-femmes du territoire entre les cabinets brûlés et les départs. La profession est au plus mal et demande le soutien des institutions, vous l'entendrez. Le sport est une première depuis 5 ans. Le Tour de France cycliste ne passera pas un seul kilomètre à l'étranger. Départ de Lille le 5 juillet pour une arrivée sur les Champs-Élysées le 27. Présentation de ce parcours exigeant en fin de journal. La météo sur le territoire, les nuages formés sur la chaîne débordent vers l'est en donnant des averses. Ailleurs, le temps reste bien ensoleillé. Les températures sont en baisse en revanche, limitées par le retour de l'alizé. Elle retrouve des valeurs de saison avec 26 à 29 degrés, voire 30 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et elle a une actualité à l'étranger.
Oui, Emmanuel Macron s'est donc adressé au Parlement marocain cette nuit pour nous. Beaucoup de sujets sur la table durant cette visite d'État de 3 jours à Rabat, dont celui des visas consulaires et une standing ovation et des applaudissements lorsqu'il a déclaré souverain le Maroc sur le Sahara occidental. En somme, c'est un discours très fort, Jacques Serret.
Oui, Emmanuel Macron voulait marquer les esprits.
La France se tourne vers ces 80 dernières années de relations franco-marocaines, c'est d'abord de la gratitude qu'elle ressent.
Le chef de l'État a multiplié les louanges à l'égard notamment du roi Mohamed VI.
La vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les réalisations des 25 premières années de son règne sont une invitation à nous tourner vers l'avenir.
Et a appelé à l'écriture d'un nouveau livre entre la France et le Maroc, sans omettre la délicate question des OQTF.
Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Chacun voit bien que cette question est aussi une question de confiance réciproque. Elle constitue pour beaucoup de Français une attente des plus fortes. Nous avons besoin de davantage encore de résultats.
Emmanuel Macron donne en tout cas ici un gage de sa bonne volonté sur ce chemin. Le chef de l'État a réaffirmé, je cite, que l'avenir du Sahara occidental s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine.
Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet des OQTF avec son homologue marocain. Il a annoncé la volonté commune de raccourcir les délais pour la réadmission des ressortissants marocains en situation irrégulière en France. Écoutez.
Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière. Nous avons un cadre et des procédures. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. J'ai assuré mon homologue ministre de l'Intérieur du Maroc de mon plein engagement et de ma disponibilité à venir au Maroc autant que nécessaire. Je voudrais dire que l'amitié entre la France et le Maroc connaît un nouveau départ et je m'en réjouis. Nous ferons ensemble le maximum, vraiment pour être à la hauteur, pour reprendre l'expression de ce partenariat d'exception renforcé, scellé par nos deux chefs d'État.
Et les deux pays ont également conclu des contrats d'investissement dont le montant global atteindrait jusqu'à 10 milliards d'euros. Un déplacement marqué par une polémique. Emmanuel Macron a invité dans sa délégation Yacine Bellatar, l'humoriste franco-marocain dont les prises de position sont controversées, a notamment été condamné en 2023 pour menace de mort. Une venue qui fait réagir sur les bancs de l'Assemblée nationale. À gauche, sa présence ne pose aucun problème, selon le député Benjamin Lucas.
Le président de la République compose sa délégation. En l'occurrence, je ne crois pas que M. Bellatar soit ni ambassadeur, ni membre du gouvernement. Donc pour moi, il n'y a pas de nature à polémiquer.
La droite, en revanche, est vent debout. Éric Ciotti regrette une humiliation envers le Maroc et déclare que Yacine Bellatar est, je cite, « un compagnon de route des islamistes du CCIF ». Le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous depuis. Et au Rassemblement national, le député Franck Alizio accuse Emmanuel Macron de pourrir sa visite d'État.
Soit le président ne comprend vraiment pas les Français, ne comprend vraiment pas ce qu'a représenté M. Bellatar, soit, en effet, il en est parfaitement conscient et c'est une provocation.
Quant à Marion Maréchal, elle a aussi affirmé que sa présence, qui plus est en survêtement, faisait honte à la délégation française en visite dans le pays ami qu'est le Maroc. Fin de citation. Quant à l'entourage du président de la République, il a fait valoir qu'il s'agissait d'une personnalité franco-marocaine et a assuré que sa présence dans la délégation ne valait en aucun cas adhésion à ses idées. Alors, on parlait à l'instant des OQTF. Eh bien, Taha Walidat, le meurtrier présumé de la jeune Philippine, qui se trouvait d'ailleurs sous obligation de quitter le territoire français, accepte finalement son extradition vers la France. Il était jusqu'à présent aux mains des policiers suisses qui l'avaient arrêté. Mais alors, quelle va être la suite, Wilfried de Villers ?
Les autorités suisses vont organiser son transfert vers la France dans les prochains jours. C'est ce qu'annonce ce soir son avocate Florence Yersin. Taha Walidat avait d'abord refusé son extradition le 17 octobre dernier. Il est finalement revenu sur sa décision aujourd'hui après un échange avec son avocate. Alors, une fois son transfert vers la France, quelle est la suite de la procédure pour le principal suspect du meurtre de Philippine, Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris.
Le mise en cause va être présenté au juge d'instruction français qui informe sur cette affaire. Il va l'entendre, il va l'interroger. Sans doute va-t-il le placer sous le statut de mise en examen et il risque de saisir le juge des libertés de la détention pour que celui-ci l'incarcère en France.
Quant à l'ouverture d'un procès, cela pourrait prendre plusieurs années, détaille l'avocat. Taha Walidat, 22 ans, a été interpellé à Genève le 24 septembre dernier, trois jours après le meurtre de Philippine dans le bois de Boulogne à Paris. Connu de la justice, il a déjà été condamné pour un viol commis en 2019. Il est libéré 5 ans plus tard, quelques semaines seulement, avant qu'il ne s'en prenne à Philippine.
Et rappelons que l'homme de 22 ans a été interpellé le 24 septembre dernier à Genève. Il est accusé d'avoir tué donc la jeune Philippine, étudiante de 19 ans, trois jours plus tôt dans le bois de Boulogne. À l'étranger, plus qu'une semaine avant l'élection présidentielle américaine et les deux candidats multiplient les discours et les piquent contre l'autre, Léana Colombo.
Oui, Kamala Harris, la candidate démocrate, doit s'adresser à ses électeurs à Washington dans quelques heures. Discours axé sur la volonté de tourner la page Trump. De son côté, le candidat républicain Donald Trump a tenu une conférence de presse à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride. Après avoir dit que Kamala Harris avait l'intention de ne rien faire si elle était élue, Donald Trump a botté en touche sur cette polémique lors du meeting au Madison Square Garden. C'était une absolue fête de l'amour, s'est-il contenté de dire, alors qu'à ce meeting, l'humoriste Tony Hinchcliffe a décrit Porto Rico comme une île flottante d'ordures au milieu de l'océan.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici justement notre question du jour. À une semaine de l'élection présidentielle américaine, qui souhaitez-vous voir gagner ? Si vous souhaitez que Donald Trump l'emporte, vous tapez 1. Si vous préférez que Kamala Harris soit élue, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, alors que la métropole vient de passer à l'heure d'hiver, 59% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la Nouvelle-Calédonie ne doit pas envisager un tel changement. Ils sont donc 41% à penser à l'inverse, que la Nouvelle-Calédonie doit se poser la question du changement d'heure. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En attendant, il est 6h passé de 39 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Actualité marquée par cette coupe budgétaire sur la ville de Dimbéa.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La vie est faite d'imprévus, de changements, d'incertitudes.
Bienvenue !
Mais un accompagnement personnalisé offre de nouvelles perspectives. Les défis se transforment en opportunités. Demain se réinvente et vous appartient. Crédit à la consommation, financement professionnel, BCI. Le coup de pouce dont vous avez besoin. Offre commerciale disponible. Parlez-en à votre conseiller BCI.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine ? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en Nouvelle-Calédonie et cette réduction drastique du budget de la ville de Dimbéa qui réunissait hier soir son conseil municipal avec à l'ordre du jour, Léana Colombo, l'adoption d'une décision modificative du budget de la ville.
600 millions de francs en moins dans le budget pour l'année 2024. Conséquence évidente des émeutes, la ville de Dimbéa a dû réduire de 200 millions son budget de fonctionnement et de 400 millions celui d'investissement. Les préjudices subis depuis le 13 mai sont estimés à près de 2 milliards sur la commune. À cela s'ajoute la perte de nouvelles recettes. Le maire de la ville, Johan Lecourieux, en appelle donc une nouvelle fois à l'aide de l'État.
200 millions en moins en fonctionnement, c'est des opérations de culture, des opérations sportives en moins qui ont eu lieu entre le mois de mai et le mois d'octobre-novembre. Et c'est aussi des réductions de personnel. Nous sommes des collectifs d'État, nous avons besoin d'une aide d'État. À l'heure actuelle, les communes n'ont pas touché d'aide de l'État et c'est important d'avoir une aide directe de l'État pour la reconstruction de la commune et aussi finir les démolitions que nous devons faire rapidement.
Quant aux projets d'investissement, ceux débutés avant le 13 mai sont maintenus, les autres sont avortés. Et puis la période de violence que nous avons traversée a également montré la capacité de mobilisation des citoyens du territoire. Face à ce constat, la ville de Dumbéa a annoncé hier relancer le dispositif de participation citoyenne. Dès ce matin, des habitants de la commune pourront se porter volontaires. Le but, impliquer les citoyens pour lutter contre les atteintes aux biens et faire remonter les renseignements aux forces de l'ordre. Les précisions du maire Johan Lecourieux.
La participation citoyenne, c'est un dispositif qui permet de mettre en synergie la gendarmerie, la mairie, mais aussi des référents dans les quartiers. Ce n'est pas de la surveillance, c'est vraiment de la veille et que l'information remonte au niveau de la gendarmerie qui est là, elle, pour intervenir et pour faire, si nécessaire, des procédures. C'était envisagé avant le 13 mai, mais on a vu l'importance que ça prenait. Je pense que ça va prendre son essor par rapport à la première tentative parce que les conditions, on va dire, ont peut-être changé. Le contexte a changé, donc on pense qu'on peut avoir des gens de qualité pour effectuer ce dispositif de veille sur l'ensemble de la commune.
Un conseil qui s'est achevé par un temps dédié aux questions, l'occasion pour le premier groupe d'opposition Dumbéa Intègre d'alerter la municipalité sur la multiplication des squats en face du complexe Kenwin. Et c'est Katia Palladini qui a porté cette interrogation devant le maire.
C'est une crainte pour les gens parce que des squats, on en a déjà beaucoup. La violence a émergé en grande partie par rapport à ces squats qui ont hébergé des responsables. Et il est normal que les habitants de Dumbéa, là, s'inquiètent à savoir s'il va y en avoir d'autres. On multiplie, on laisse la problématique monter au lieu de l'éradiquer. C'est le sentiment que j'ai. Je réitère, je souligne qu'il y a tout de même une grande impuissance de la part de notre maire.
Question à laquelle le maire a répondu en rappelant que les parcelles sur lesquelles sont montées ces occupations relèvent du domaine privé et que de nombreux courriers ont déjà été adressés à leurs propriétaires. Intervention ayant également animé ce conseil municipal de la ville de Dumbéa, celle de Cynthia Jean, élue pour le groupe Génération Dumbéa. Elle a tenu à rappeler la gravité des actes à l'origine de ces coupes budgétaires.
Nous sommes intervenus sur le dispositif de participation citoyenne qui nous semble un dispositif intéressant. Puisqu'il faut renouer le dialogue avec les voisins vigilants qui ont été très choqués, qu'on leur impose de retirer leur point de surveillance. Donc c'est un dispositif qui, on l'espère, va favoriser ce retour à la confiance. Sur la question du budget, notre intervention elle est claire. Les terroristes de la CCAT ont ruiné la Nouvelle-Calédonie et Dumbéa n'a pas échappé à la règle. Après des émeutes qui nous ont complètement bouleversés, d'abord humainement et ensuite qui ont anéanti un certain nombre d'équipements de la commune, nous savons qui sont les responsables et nous savons faire preuve de discernement.
Également évoqué au cours de cette séance, l'école des Jacarandas, ciblée à de nombreuses reprises lors des exactions, et elle ne sera pas reconstruite.
Et puis les élus de Païta étaient également réunis hier soir pour un conseil municipal, une réunion dédiée au PUD, le plan d'urbanisme directeur. Il a été arrêté et rendu public et il est donc opposable et consultable par les habitants depuis ce matin. Les précisions d'Antoine Romain, le directeur de cabinet du maire de Païta.
C'est un texte qui a été adopté à l'unanimité de l'ensemble des conseillers municipaux présents. Donc tous les documents qui y sont liés sont opposables aux tiers, c'est-à-dire que pour les demandes, par exemple, de permis de construire, permis de lotir, il y a désormais de nouvelles règles applicables sur la commune de Païta. Le rendu public va entraîner une enquête publique qui débutera le 15 novembre prochain pour 45 jours et qui permettra à l'ensemble des administrés de Païta de pouvoir non seulement consulter ce PUD, mais évidemment s'exprimer sur ce PUD. La procédure se poursuivra dans le premier trimestre de l'année prochaine avec effectivement le rapport du commissaire enquêteur et puis l'adoption définitive à la fois par de nouveau le conseil municipal et l'assemblée de province.
L'élaboration de ce PUD est établie à plusieurs dizaines de millions de francs. Une partie est subventionnée par la province sud. Un plan qui servira au développement des habitations, des commerces et de l'agriculture, notamment dans le nord de la commune. En bref, l'UFC attaque la délibération du Congrès sur l'augmentation des tarifs du photovoltaïque. L'association de consommateurs a introduit un recours devant le tribunal administratif concernant ce texte voté par amendement le 22 août dernier. Un autre recours a été déposé concernant ce coup-ci la hausse des tarifs de l'électricité. Il est 6h46, vous écoutez Radio Rythme Bleu. La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, ce sera juste après la pub avec notamment ces élections pour les instances dirigeantes des chambres consulaires.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Artisans de Nouvelle-Calédonie, c'est le moment de faire entendre votre voix. Dès maintenant, la Chambre de métiers et de l'artisanat vous invite à voter pour élire vos représentants pour les 5 ans à venir. Trois options simples pour voter. Par correspondance jusqu'au 25 octobre grâce aux documents reçus par la poste. Par voie électronique jusqu'au 25 octobre en vous connectant sur le site dédié. Ou encore en personne le 5 novembre en vous rendant dans l'un des trois bureaux de vote à Nouméa, Conné ou Poindimier. N'oubliez pas votre pièce d'identité. Toutes les infos sur www.cma.nc ou par téléphone au 28 23 37. Artisans, pour défendre vos intérêts, votez.
Attention! Arrivage massif de fleurs artificielles chez Cheval Distribution. Fleurs artificielles de qualité, tiges, bouquets, compositions et tout ça à petit prix. Disponible dès maintenant chez Cheval Distribution. Fleurs artificielles pour tous les goûts et tous les budgets. Ayez le réflexe Cheval Distribution. Votre animalerie jardinerie à Bellevue, ouvert tous les jours.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
Excellent début de journée. La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Une chambre pour tous, ensemble pour réformer et reconstruire. C'est le nom de la liste que le président sortant de la CCI va conduire pour le renouvellement des élus de la chambre. David Guyenne et son équipe entendent s'appuyer sur l'expérience de la précédente mandature et proposent de la continuité à la tête de la CCI, tout en proposant également du renouvellement. C'est ce qu'il a expliqué hier soir en présentant sa liste et ses objectifs.
C'est une liste d'expériences qui a suggéré des crises majeures, qui a accompagné les entreprises à travers le Covid, à travers l'incertitude du troisième référendum et qui aujourd'hui accompagne pleinement les entreprises dans cette épreuve majeure des émeutes. On est mobilisé avec cette expérience technique de la connaissance des entreprises, mais aussi des interlocuteurs qui comptent pour pouvoir sortir de la Calédonie de ses difficultés. Et cette expérience, elle vient se compléter d'un tiers de candidats nouveaux qui vont apporter leur force dans les secteurs qui vont compter dans la reconstruction. Je pense par exemple à l'export, je pense aussi aux nouvelles technologies et je pense au BTP. Donc on est très fiers d'avoir su apporter du changement dans la continuité, mais une continuité qu'on revendique parce que, encore une fois, la situation est tellement complexe qu'il faut être prêt, comme on l'est, dès le lendemain de l'élection.
Un tiers des candidats renouvelés donc dans la liste du président sortant et parmi les nouveaux visages, celui de Pierre Massenet.
J'ai été amené à connaître la liste sortante à travers les travaux qui ont été faits ces 4 dernières années, donc en tant que conseiller technique. J'ai trouvé que le boulot qui a été fait a été un bon boulot. Je trouve que le monde économique est revenu au centre des discussions politiques, notamment grâce à l'initiative NCECO dont fait partie la CCI. Je trouve que l'accompagnement aux entreprises a été exemplaire sur toutes les périodes difficiles. Et au moment où on a vraiment un besoin de reconstruction, de refondation, je pense que c'est important de marquer la continuité, de marquer l'unité, de marquer les valeurs pour continuer à accompagner le monde économique et à faire en sorte qu'il se transitionne sur la nouvelle ère. Voilà.
Une chambre pour tous, ensemble pour réformer et reconstruire est la première liste à se présenter pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie qui ont lieu dans un peu plus d'un mois. Une autre liste serait en cours de constitution. David Guyenne dit regretter ne pas avoir trouvé une unité dans un moment où les défis qui attendent les entreprises sont particulièrement importants. Et puis les élections pour le renouvellement des élus de la Chambre des métiers sont également en cours. Les adhérents ont pu voter par correspondance ou par voie électronique jusqu'au 25 octobre dernier. Et le 5 novembre, ceux qui n'ont pas encore voté pourront se rendre dans l'un des bureaux de vote situés à Nouméa, Conné et Poindimier. Deux listes sont en lice, celle de la présidente sortante Elisabeth Rivière, baptisée Agissons pour un avenir durable de l'artisanat en Nouvelle-Calédonie. Elisabeth Rivière qui sera notre invitée à la mi-journée dans le journal de 11h30. Et puis l'autre liste, l'artisanat autrement, décidons ensemble, est menée par Cédric Brinon qui sera quant à lui notre invité du matin tout à l'heure à 7h30. Toujours dans l'actualité économique et professionnelle, les sages-femmes du territoire lancent un cri d'alerte. Les violences subies depuis le 13 mai ont aggravé la crise que traversait déjà la profession, Léana Colombo.
Avec plusieurs cabinets brûlés ou rendus inaccessibles, ainsi que de nombreux départs, elle déplore le manque de considération des institutions publiques à l'égard de leur situation. À l'approche de la commission santé de la CAFAT qui se tient au mois de novembre, le syndicat des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie souhaite donc manifester son indignation. On écoute Julie Coupé-Nourry, sage-femme libérale sur Boulari et trésorière du syndicat.
Ben ça, c'est un peu malheureusement l'histoire de la profession de sage-femme depuis la nuit des temps. On est sans cesse le parent pauvre de la médecine. On est à bac plus 6 aujourd'hui. On fait le même temps d'études que des confrères dentistes. Je peux vous dire qu'on ne serait pas à 3520 francs la consultation. Si on va dans le domaine hospitalier, nos confrères, leur grille indiciaire n'ont pas été renouvelée depuis 2017. Et alors aujourd'hui, si on veut essayer de fidéliser les gens sur le territoire pour qu'ils restent ou à défaut de réussir à en faire venir, va falloir rendre la profession un peu plus sexy. Parce que je peux vous garantir qu'avec tout ce qui s'est passé, entre les cabinets qui ont été brûlés ou inaccessibles, la sourde oreille de la CAFAT et du gouvernement à toutes nos demandes, on va avoir une nouvelle hémorragie de soignants, parce qu'il y en a quand même plus de la moitié de la population des sages-femmes de Calédonie qui songe sérieusement à partir avant la fin de l'année. On fait face à une catastrophe.
Parmi les propositions du syndicat, augmenter le tarif des consultations à 3970 francs, soit le même montant que reçoivent les sages-femmes en Polynésie. En Calédonie, ce prix est de 3520 francs depuis 2017.
Et enfin, une information pratique, notamment pour les automobilistes au Mont d'Or, un nouvel arrêté du Haut Commissariat concernant le tronçon de la route de Saint-Louis. L'autorisation d'y circuler est prolongée jusqu'au 4 novembre avec le dispositif de convoi. Pour rappel, les véhicules peuvent traverser entre 6h et 10h, puis de 14h à 18h. Il est 6h52, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir l'actualité sportive et notamment le tracé de la Grande Boucle 2025.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
C'est bon. Il y a quoi dans Milo, maman ?
Dans Milo, il y a plein de céréales qui te donnent de l'énergie. Du lait qui t'apporte du calcium et des protéines. Et le cacao qui apporte son goût chocolaté. Milo contient aussi des vitamines et des minéraux. Très important pour ta croissance. Il te donne de l'énergie pour toute la journée.
Milo, l'énergie des champions.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Matin avec le sport, Nicolas Legrand.
Et on connaît donc le parcours du prochain Tour de France. L'édition 2025 de la Grande Boucle a été dévoilée au Palais des Congrès à Paris la nuit dernière. Une édition qui se tiendra du 5 au 27 juillet. Et pour la première fois depuis 5 ans, le tracé sera 100% français. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Pour la première fois depuis 2020, l'intégralité de ce 112e Tour de France ne dépassera pas une seule fois les frontières françaises. Les coureurs prendront le départ dans le Nord, à Lille le 5 juillet, avant de filer en direction de la Bretagne. La Normandie retrouvera ainsi le Tour de France 9 ans après le dernier passage du peloton dans la région. Une première semaine qui ne sera pas de tout repos, hein, c'est ce qu'explique Christian Prudhomme, le patron du Tour de France.
C'est une semaine de plein en faux semblant parce qu'en fait, il y aura dans la première semaine à Boulogne, à Rouen, à Vire, une succession de côtes. Je crois que Thierry Gouvenou, qui a tracé le parcours, n'a pas laissé de côté une seule ascension entre Lille et la Bretagne. C'est fait pour les puncheurs, c'est fait pour qu'il y ait de la course, pour que la course soit dense et belle, et c'est évidemment ça le plus important.
Et après la Normandie et la Bretagne, direction le centre de la France avec notamment une arrivée à Châteauroux. Et puis à partir du 17 juillet, c'est les choses sérieuses qui commencent avec la haute montagne, les Pyrénées puis les Alpes. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et les autres favoris s'affronteront ainsi sur les terribles pentes du Tourmalet, du col de la Lauze ou encore du mythique Mont Ventoux. Un tracé particulièrement exigeant concocté par Thierry Gouvenou, directeur technique en charge du parcours.
Les étapes de montagne sont vraiment très très difficiles. On a mis beaucoup de dénivelé. L'étape de Superbagnard va quasiment atteindre les 5000 mètres de dénivelé, le col de la Lauze à 5500 mètres. Il ne faudra pas avoir des jours sans dans ce genre d'étape parce que ça pourrait se payer cash pour des coureurs qui jouent le général.
Du spectacle donc au programme pour ce Tour 2025 avec pour conclure un grand retour très attendu sur les Champs-Élysées pour l'arrivée finale le 27 juillet.
Antoine Biavaud pour Europe 1. Rendez-vous donc du 5 au 27 juillet pour voir le peloton et profiter également de cette caravane du Tour de France et ses nombreux objets publicitaires avec les friandises, les bidons de coureurs ou encore les casquettes. Du tennis, et on joue la suite du premier tour du Rolex Paris Masters. Arthur Fils se débarrasse de Marin Cilic en 2-7 accrochés. Giovanni Empeci-Pericard, qui a bénéficié d'une wild card, a quant à lui battu l'Américain Frances Tiafoe. En revanche, pour sa dernière participation, Richard Gasquet a chuté d'entrée contre le Belge Zizou Bergs. Le sport chez les femmes avec un match amical de l'équipe de France de football. Ce matin, les Bleus se déplacent en Suisse. Le coup d'envoi sera donné d'ici 4 minutes à 7 heures. Et puis une mauvaise nouvelle pour le football local, il n'y aura pas de club calédonien au 7e tour de la Coupe de France. On l'a appris directement sur le site de la Fédération française de football. L'instance explique qu'en Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des compétitions étant annulées jusqu'à la fin de l'année, aucun club calédonien ne participera à l'édition 2024-2025 de la Coupe de France. Gilles Tavergeux, le président de la FCF, comprend cette décision, mais il aurait préféré toutefois une meilleure communication de la part de la 3F. Et puis enfin, le top départ hier à la mi-journée du tournoi territorial organisé par l'UNSS-NC au Stade Pentecôte à Nouméa. Au total, 21 établissements scolaires de la province sud, de la province nord et de la province des îles sont représentés, soit près de 250 collégiens et lycéens. Un tournoi qui se veut à la fois festif, constructif et surtout de découverte d'un nouveau format avec de la mixité et de la multi-activité, du basket 3 contre 3, de l'athlétisme, du biathlon ou encore du futsal. 11 équipes Benjamin, 6 équipes minimes et 4 équipes de lycée défilent sur les installations du stade.
On vient du lycée des îles qui est sur les fous. Il y a plein d'activités comme du football, il y a de l'athlétisme. On voyage avec les professeurs et on a nos correspondants qui sont ici sur Nouméa.
Pour m'amuser, faire du sport contre d'autres collèges.
Moi, je suis venue pour voir les anciens copains de l'école.
On est démarré. On est monté en bateau hier. On va faire du basket avec du biathlon, de l'athlétisme et puis du futsal.
On va faire du 50 mètres. Après, je crois que c'est 1000 mètres. Et comment c'est en longueur, tout ça?
Moi, je suis venue pour voir les copines de Boulari, voilà. Et aussi, je suis venue pour gagner.
Oui, voilà, gagner. Puis s'amuser aussi.
Et de nombreuses médailles seront évidemment distribuées à la fin de toutes les épreuves.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on termine avec les prévisions du temps et c'est avec vous Thierry.
Oui, les loyautés conserveront un ciel nuageux avec quelques averses. Sur la façade ouest, les remontées nuageuses se feront fréquentes en début de matinée, donneront des averses avant de se dissiper. À l'inverse, le soleil dominera d'abord très largement sur l'est, puis le ciel commencera à se charger. Le vent pour ce matin, sud à sud-est, entre 15 et 20 nœuds sur le nord-ouest et les loyautés, il sera plus faible ailleurs, 10 à 15 nœuds, voire moins sur l'est en début de matinée. Cet après-midi, les nuages formés sur la chaîne déborderont vers l'est et donneront quelques averses, et notamment sur le nord-est où les pluies seront plus marquées. Ailleurs, le temps restera très ensoleillé. Sur le sud, le nord-est, le vent lui orienté au sud-sud-est. Il se maintient autour des 10 à 15 nœuds. Ailleurs, il sera compris entre 15 et 20 nœuds. Localement, 20 nœuds avec des rafales sur la pointe nord, le nord-ouest et le sud-est. Les températures pour terminer, elles sont en baisse, limitées par le retour de l'Alizé, elles retrouvant des valeurs de saison entre 26 et 29 degrés, voire 30 degrés. Et ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'avoir écouté ce journal.